les jardinières.
Pluie, neige, température fraîche, rien n'arrête les jardinières. La preuve, nous sommes là. Et nous sommes là jusqu'à 8h. Bonjour Raphaël.
Bonjour Mylène et bonjour tout le monde.
Il n'a pas hésité à braver le froid pour nous rejoindre. Ce matin, c'est Jean-Pierre Ribaud qui répondra à nos questions jardinage. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour tout le monde.
Jean-Pierre Ribaud, vous êtes paysagiste et propriétaire de Ribaud Paysages à Queuves. Merci d'être avec nous ce matin.
Il est l'heure d'enfiler les bottes pour partir au potager. Bon réveil à vous et bienvenue chez les jardinières.
7h, 8h, les jardinières.
Jean-Pierre, la neige est tombée jusqu'en plaine, les températures sont fraîches et la bise, eh bien, s'est mêlée à la fête. Les jardiniers ont certainement envie de rester au chaud, mais les plus valeureux iront au jardin. Alors, quelles tâches on peut leur proposer pour ce week-end ?
Oui, alors en cette période de début décembre, avec la météo qu'on vit, ce qu'on peut peut-être, si vraiment on est très très motivé évidemment, il nous reste les tailles bien sûr qui restent à réaliser dans ces aménagements, que ce soit des tailles d'arbres, d'arbustes, de fruitiers, de l'érosier certainement c'est déjà fait. On peut plus qu'intervenir au niveau des tailles parce que, ou éventuellement plantation, mais le sol est tellement gorgé d'eau que la plantation sera peut-être un peu difficile à réaliser dans de bonnes conditions. Alors, je pense qu'un peu de taille éventuelle, et puis sinon, pour le reste, prendre son mal en patience. De toute façon, l'hiver sera long, et puis on aura quand même d'autres belles journées par rapport à celles qui se présentent là.
Typiquement, un matin comme celui-là, on a envie d'aller au potager, on se lève, on voit qu'il y a de la neige. Est-ce qu'il faut faire quelque chose de particulier si on y tient quand même tout de même à aller faire des choses dans son jardin ?
Mais peut-être par temps de neige, ce qu'on peut faire, c'est au cas où on a mis des protections sur potager, des bâches, des couvertures ou des petits tunnels pour protéger les légumes qui sont encore en hivernant dessous, on peut peut-être au moins éviter d'avoir des dégâts de neige et puis enlever un peu la neige qui s'y trouve. Après, pour le reste, non, parce que même la neige sur un légume qui est resté au potager, ça fait une super protection pour les gros froids qui pourraient arriver. Et puis on pourrait même causer plus de dégâts en enlevant la neige que de la laisser. Sauf si, bien sûr, c'est une neige très mouillée sur des choux de Bruxelles ou sur des éléments en hauteur où on voit que le poids de la neige fait arquer les végétaux. Et bien là, on peut peut-être juste secouer ces végétaux. Mais pour le reste, non, on peut laisser la neige.
Comme on le dit souvent dans les jardinières, laissons faire la nature. Merci beaucoup Jean-Pierre. Jusqu'à 8h, vous allez répondre bien sûr aux questions jardinage de nos auditeurs. On vous rappelle comment nous poser ces questions. Vous avez trois possibilités à votre disposition. Vous le faites par téléphone en composant le 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous pouvez également le faire par SMS. Vous tapez jardin, un espace, votre question. Vous nous envoyez ce message au 939 ou par le formulaire qui est disponible sur notre site internet. Vous allez sous l'onglet émission questions aux jardinières avec la possibilité de joindre une photo.
Après la pause musicale, Jean-Pierre nous parlera d'élagage d'arbres pour savoir comment notre professionnel taille les grands végétaux. Rendez-vous dans quelques minutes.
7h, 8h, les jardinières.
Dans son métier de paysagiste, Jean-Pierre Ribaud pratique l'élagage des arbres. Il vous est peut-être déjà arrivé de voir des panneaux sur les bords des routes avec ce terme sans jamais vraiment savoir en quoi ça consistait. Eh bien, vous allez avoir la réponse dans les minutes qui suivent. Alors Jean-Pierre, en quelques mots simples pour nous, quelle est la définition de l'élagage ?
Eh bien, l'élagage, c'est le fait de diminuer de volume un grand arbre, un grand sujet qui se trouve dans le milieu bâti. Et puis, on met souvent des panneaux parce qu'on est souvent en hauteur. Il y a même souvent des collaborateurs qui se trouvent au sol pour sécuriser les endroits d'intervention parce que, évidemment, on est en hauteur, personne ne nous voit là-haut. Et puis, quand les éléments que l'on sectionne tombent, un maximum de mesures de sécurité sont mis en place.
Quelle est la différence avec une taille plus classique ?
Alors, l'élagage reste une taille, mais elle est peut-être un peu plus méchante dans l'intervention parce que on rabat volontiers de plus ces grands végétaux quand on intervient pour limiter le nombre d'interventions dans le temps parce qu'évidemment, économiquement, c'est quelque chose qui coûte. Alors bien sûr, on prend beaucoup de mesures dans l'intérêt du végétal. On limite par exemple la grandeur des coupes pour que ces coupes puissent se cicatriser dans le temps et puis l'arbre survivre à cette intervention. On sait très bien que quand on fait une taille ou un élagage méchant comme celui-là, On aura un fort redémarrage de la végétation derrière parce que l'arbre il va se défendre de cette intervention et puis remettre un maximum de capacité à compenser ce qu'on aura supprimé. Par contre, bien sûr, le fait d'avoir supprimé ce volume en pourtour, ça peut être des fois jusqu'à un tiers de la couronne qu'on peut supprimer. On limite énormément le risque de casse lors de neige humide, de givre, de vent. Par cette intervention, on contrôle également tous les éléments qui s'y trouvent et puis tout ce qui est malade, blessé ou en train de dépérir, eh bien sûr, on les enlève pour éviter que 2 ou 3 ans après, on ait de la casse et puis que ça tombe au sol sur un trottoir, sur une voiture. Ça reste une taille, l'élagage, mais une intervention différente parce que bien sûr, on est vraiment en hauteur. Ça devient difficile de les réaliser avec des échelles parce qu'on est vraiment hors gabarit d'échelle. Donc c'est avec d'autres moyens qu'on intervient sur ce végétaux, mais ça reste une taille.
Jean-Pierre, vous l'avez dit, hein, ça a un coût aussi d'élaguer des arbres. Peut-être qu'il y a des gens qui se disent « Ah ben, je vais le faire moi-même, je vais m'arnacher dans mon arbre et couper avec ma petite tronçonneuse ». On a le droit de faire ça ?
Alors tout un chacun peut prendre le risque d'élaguer, de tailler son végétal chez lui. Après, il faut savoir que ça reste des interventions dangereuses, bien sûr, parce que de un, on n'est pas au sol, on est en hauteur, il faut s'attacher, souvent on prend des nacelles, on arrive même des fois à devoir faire venir une autogrue parce que l'arbre se trouve entre des bâtis, puis on ne peut pas se permettre de laisser tomber au sol les éléments qui vont tomber, donc on les treuille avec une autogrue. C'est pas si simple pour un privé d'intervenir comme ça dans un arbre d'un grand gabarit.
Mais Jean-Pierre, quand on parle d'élagage, c'est pour des très grands arbres. Ces arbres, ils n'ont pas trop l'habitude d'être taillés. Est-ce que ça peut fragiliser les végétaux ?
Alors oui, ça peut les fragiliser selon l'intervention qu'on réalisera. Si on fait des trop grosses coupes, des trop grandes plaies dans le végétal, eh bien ces plaies ne vont pas cicatriser. Il était un temps où on devait mettre en fait une pâte cicatrisante qu'on appelait sur ces plaies. On s'est rendu compte avec le temps que cette pâte cicatrisante, elle était plus nocive que positive parce que première année, bien sûr, elle est super hermétique et puis elle vous ferme cette plaie. Par contre, après, ce produit qu'on aura mis, eh bien, il va faire une croûte par-dessus ce mognon qu'on appelle dans la taille. Et puis, l'humidité va commencer à se mettre par-dessous. Et puis, il va garder l'humidité. Et puis, il ne va pas permettre l'assèchement de cette plaie. Puis, à partir de là, ces pâtes cicatrisantes, on ne les met plus du tout. Par contre, on limite vraiment la grandeur de la taille. Donc, plutôt que de couper une grosse branche, on va plutôt monter en hauteur pour prendre 3 branches de diamètre moyenne pour limiter justement ces grosses plaies. Et puis il y a d'autres fois, on arrive aussi à faire un élagage doux qu'on appelle, ça veut dire on monte tout en haut le végétal avec des cordes et des scies, et puis là on fait un allègement léger de toute la couronne pour de un ne pas détruire l'ensemble de l'aspect végétal qu'il aura, ce végétal, et puis limiter justement les casses quand même lors des dégâts de neige, de givre ou de vent.
Jean-Pierre, vous devez faire une espèce de diagnostic de cet arbre. Alors vous faites avant de monter dans l'arbre ou une fois que vous êtes en haut, vous dites bon ben on va couper celle-là.
Non, c'est systématiquement avant qu'on arrive à s'imaginer comment est-ce qu'il sera après. Et puis c'est propre à chaque essence. Si c'est un tilleul, ce sera beaucoup plus facile que si c'est un sapin, si c'est un érable, pareil. Enfin, on va vraiment adapter notre intervention par rapport au type de végétal, par rapport au volume qui lui est donné dans l'espace où il est planté, et puis le but recherché par l'élagage.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, en compagnie de Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuves, nous parlons d'élagage des arbres. On va se mettre en situation. Alors Jean-Pierre, on imagine que nous avons un très grand tilleul dans notre jardin. C'est un quartier résidentiel, l'arbre est vieux et ses branches débordent chez les voisins. On vous appelle pour l'élaguer. Alors comment se déroule votre travail ?
Eh bien, on analyse la situation, bien sûr. On évalue ce qu'il y a au sol qui pourra poser problème lors de l'intervention. On évalue quelle sera l'intervention, le volume à devoir diminuer au niveau de ce tilleul. s'il y a des branches qui sont déjà menaçantes, lesquelles faudra vraiment enlever pour ne pas avoir de risque lors de l'élagage d'avoir un accident pour nous. Et puis, une fois que tout ça s'est réalisé, on s'occupe de préparer son matériel. Alors évidemment, un casque avec un harnais qu'on arrive à se lier vraiment sur la tête, qui ne puisse chuter quand on sera dans la hauteur. Des grimpettes, des pantalons de sécurité, des égoïnes, si éventuellement petites tronçonneuses, les cordes, cordelettes, les harnais de sécurité. Et puis, quand tout est mis en place, encore à voir si on intervient avec une nacelle ou à l'échelle, ou si on monte avec les cordes à l'intérieur du végétal. Et puis, une équipe va gérer la sécurité du sol, bien sûr, pendant qu'un ou deux collaborateurs, selon la grandeur du volume du végétal, est à intervenir, à travailler, l'élagage va pouvoir commencer. Encore une fois, on porte vraiment attention, garde sur les éléments qui sont desséchants, parce que dans ces grands et vieux végétaux, il y a souvent des charpentières à l'intérieur des couronnes qui sont menaçantes, qui sont pourries, qui sont sèches. Donc le grimpeur, à chaque fois, il va se garantir d'être sur une branche portante. On sait aussi, comme le tilleul, par exemple, c'est un bois qui est très tendre et très cassant. Donc on aura d'autant plus de sécurité à mettre en place lors des interventions dans ces couronnes que si c'était un érable ou un hêtre ou un chêne, évidemment.
Jean-Pierre, on va corser un petit peu le scénario avec ce tilleul. Vous vous rendez compte que l'arbre devient dangereux, le bois est attaqué par des champignons. Vous devez l'abattre, mais vous êtes entre des maisons, dans un espace restreint. Comment est-ce que vous agissez ?
Alors encore une fois, s'il n'y a pas l'espace disponible pour arriver à le coucher d'une pièce, on fait intervenir une autogrue, on câble les grands éléments. Alors c'est toujours aussi particulier parce que le bois est difficile à évaluer au niveau du poids. Le grutier lui va prendre un maximum de sécurité parce que bien sûr c'est une autogrue qui ne doit pas se coucher. Et puis en plus on aura un collaborateur, un bûcheron qui sera là pour intervenir et couper ses sections. Ça arrive de temps en temps, je dirais deux ou trois fois par année où l'autogrue arrive. Alors on prend en général une grande autogrue pour un maximum de sécurité. Et puis encore une fois, un maximum de sécurité lors des interventions. Si c'est un sapin ou un mélèze, ils sont un peu plus faciles à prélever parce que si on prend avec une élingue à une hauteur des deux tiers de la hauteur votre végétal, qui je rappelle doit être en super santé parce que si c'est un arbre qui est perdissant, on peut s'imaginer aussi que lors de cette intervention, il peut casser. Et puis s'il peut casser, on peut pas se permettre de prendre ce risque-là. Donc on interviendra encore avec une nacelle pour le sectionner en plusieurs bouts pour que lors de la section du fût qui doit tomber, que l'attache puisse supporter à la hauteur du tronc le végétal et puis que ce tronc ne casse pas pour ne pas avoir de dégâts, évidemment.
Les jardinières.
Deuxième partie de notre émission Jardinage. Les jardinières sont avec vous jusqu'à 8h. Nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Ribaud, fondateur de Ribaud Paysages à Queuves, qui répond avec plaisir et savoir, bien sûr, à vos questions.
Et si dans quelques instants, on va encore parler un petit peu d'élagage avec encore 2-3 questions à notre professionnel, on attend également les vôtres de questions par téléphone au 0 900 1 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Et si vous préférez être plus discret, vous pouvez passer par l'option SMS. Vous tapez jardin, un espace, suivi de votre question que vous nous envoyez au 939 ou par le formulaire qui est disponible sur notre site internet. Vous allez sous l'onglet émission, questions aux jardinières. Et là, vous pouvez y joindre une photo histoire d'être le plus complet possible.
Jean-Pierre, en première partie d'émission, vous nous avez parlé d'élagage, de sécurité, comment ça se passe. Est-ce que vous-même, vous avez un souvenir particulier d'un élagage, une situation un peu folle ou difficile ou insolite peut-être ?
Oui, alors je dirais qu'on a souvenir de chaque intervention qu'on a fait sur ces grands végétaux parce que ça reste des interventions qui sont quand même un petit peu stressante pour nous, un maximum de sécurité à gérer, un client qui doit être satisfait derrière, un végétal qui doit survivre à l'intervention. Donc évidemment, on se souvient de quasi tous les grands sujets qu'on aura réalisés dans des interventions de ce genre. Par contre, ce qui a drôlement changé dans l'histoire, c'est qu'il y a 20, 25 ans, Moi, encore jeune à l'époque, pas trop vieux maintenant, excusez-moi. Mais on avait encore autorisation à l'époque d'être accroché après l'autogrue avec une corde de câble.
Dans le vide, donc.
Dans le vide, avec un harnais de sécurité, bien sûr.
Balançoire géante.
Exactement, c'était le grand cri-cri, quoi. Et puis, l'autogrue nous balançait par-dessus ces végétaux, nous descendait sur les éléments à intervenir, et puis on les taillait, et puis on était seul au monde dans cette atmosphère, quoi. Ça a changé. Depuis une vingtaine d'années, la SUVA nous a interdit ces interventions.
C'est bizarre.
Donc ça restait quelque chose d'épique qui était joli à l'époque. Donc, mais non, on ne fait plus dans ce sens-là, bien sûr. C'est à l'aide de nacelles, c'est à l'aide d'autogrues, mais même la nacelle au bout de l'autogrue, il faut une autorisation pour arriver à intervenir avec ça, parce que le grutier doit être couvert à ce niveau.
On vous rappelle que ces cascades sont faites par des professionnels, évidemment. Si vous êtes jeune et que vous avez envie de vous balancer sur quelque chose de très haut, faites-le avec précaution. Ce sont des professionnels qui font ça. Justement, vous parlez des autorisations. Est-ce que pour élaguer un arbre, il faut aller vers sa commune pour avoir l'autorisation de le faire ?
Alors, systématiquement, on se garantit que ce soit déjà pas un sujet qui soit protégé au niveau du PAL. Après, des communes comme Delémont pour Antruy, il est nécessaire de demander si on peut intervenir, mais en général, on a les autorisations parce que souvent, c'est une question de sécurité, d'entretien, de survie du végétal. Et puis, avec une explication donnée aux spécialistes de l'institution, on arrive à démontrer facilement que c'est nécessaire. Il faut savoir que des interventions de ce genre, c'est onéreux. Et puis le privé qui s'intéresse à devoir nous faire intervenir sur ce végétal, il ne fait pas de guet-care parce qu'évidemment, on est sur des interventions qui peuvent tourner entre 3, 4, 5, 6 000 francs. C'est selon le végétal, le temps qu'on va passer avec la nacelle ou l'autogrue, la distance à laquelle se trouve ce végétal et puis les points durs sur lesquels on peut poser les machines, l'autogrue ou la nacelle. Donc, automatiquement, si c'est une intervention qui est demandée par le privé, c'est une obligation presque pour une question de sécurité. C'est rarement pour une question de lumière ou de... Ouais, ça n'arrive pas, ça. Parce qu'en général, quand c'est pour une question de lumière, les interventions sont déjà faites bien avant. Et puis, en général, les plantations sont aussi établies pour ne pas arriver à cette situation-là.
Merci Jean-Pierre, vous l'avez dit, c'est onéreux, mais la sécurité, ça n'a pas de prix. Vous avez parlé de 3 à 4 000 francs, ça c'est si on doit intervenir avec une nacelle, mais un élagage, si je peux utiliser ce terme, plus standard, genre couper quelques branches dans le haut. Vous pouvez nous donner une fourchette de prix ?
Ah, mais si on n'a pas de machine qui doit intervenir sur site, et puis qu'on peut faire avec des élingues ou des cordes, on peut descendre à 1 000, 1 500 francs. Après, c'est une question de temps. Ce qui est onéreux, c'est les grandes machines qui doivent intervenir. Notre temps à nous, bien sûr, c'est une question de temps, mais on n'est pas sur des tarifs de 150 à 300 francs de l'heure comme une autogrue.
Merci beaucoup Jean-Pierre, et bien sûr pour toutes les personnes qui auraient loupé le début de ce sujet sur les élagages des arbres, vous les retrouverez en podcast sur notre site internet quelques minutes à la fin de l'émission. À suivre dans quelques instants vos questions à vous Jean-Pierre, j'espère que vous êtes dans les starting blocks pour répondre aux questions de nos auditeurs. Vous nous les posez au 0900 170 20 20 ou par SMS en envoyant jardin un espace votre question au 939 ou par le formulaire qui est disponible sur notre site internet.
7h, 8h, les jardinières.
Levez le pied pour jardiner. Ah, c'est notre slogan. Voilà, pardon. Nous sommes toujours en direct avec Jean-Pierre Ribaud. Il va répondre à vos questions jardinage. Raphaël, on va peut-être rappeler comment faire pour poser vos questions jardinage.
Eh bien oui, vous prenez votre téléphone avec vos 10 doigts et vous composez le 0900 170 20 20 pour nous appeler en direct et poser votre question à Jean-Pierre en live. Et c'est toujours plus sympa d'entendre vos voix le samedi matin. Et puis si vous êtes un peu plus timide, vous pouvez choisir l'option SMS. Vous tapez le mot jardin suivi d'un espace et de votre question que vous nous envoyez au 939. Et la dernière possibilité, c'est de passer par le formulaire qui est disponible sur notre site internet. Vous allez sous l'onglet émissions, questions jardinières. Et pour être le plus précis possible, vous pouvez y joindre une photo.
Comme l'a fait Barbara de Delémont. Une question pour vous Jean-Pierre. Bonjour, j'ai une fougère dans un pot sur ma loggia orientée nord-ouest. Dois-je la rentrer pour l'hiver ou peut-elle rester en extérieur ? D'avance, un grand merci pour votre réponse avec mes meilleures salutations. Alors que dire à Barbara ?
Oui, eh bien, en fait, la fougère, c'est comme tous les autres végétaux qu'on a par chez nous, qui sont acclimatés à notre climat et qui supportent ces froids. Du moment que c'est une plante indigène et puis qui supporte vraiment nos latitudes en pleine nature, ce sera la même chose dans un pot. C'est pas parce qu'elle est dans un pot que le risque est élevé d'avoir un dégât sur racine, parce qu'une fougère qui se trouve dans un banc forestier, admettons, et puis qui est exposée au niveau des courants, et bien évidemment le pied, la racine, tout ça, c'est aussi des éléments qui vont être pris dans cette masse de froid. Quand on a des moins 20, ça peut geler des fois le sol sur une épaisseur de 15-20 cm, donc cette fougère se trouve dans ce volume. C'est la même chose dans le pot. Je dirais juste, là, la mesure, c'est de se garantir que le pot n'est pas un pot en terre cuite, parce que, comme on a déjà souvent rappelé, la terre cuite est un élément qui absorbe l'humidité de la plante, du terreau, ou même de l'extérieur à la plantation. Et puis quand on a à moins 15, à moins 20, ce pot, ben, évidemment, cette humidité gonfle, elle gèle et puis elle vous fait éclater votre pot. Alors si c'est un pot plastique ou métal, ou c'est égal, aucun souci. Si c'est un pot en terre cuite, il y a juste ce risque que sur le pot, il y ait du dégât au printemps, mais pour la fougère, aucun souci, elle va passer l'hiver comme ça.
Alors Jean-Pierre, une fougère est une plante indigène, mais si on prend par exemple une petite fougère qu'on la met à l'intérieur pendant plusieurs années et tout d'un coup on se dit « Ah ben elle devient grande, je vais la remettre dehors », est-ce qu'elle va se souvenir de ce froid ?
Oui, oui. Alors évidemment, il ne faudrait pas la sortir au mois de janvier quand on a à moins 20, mais si vous la mettez gentiment au mois de mars, avril dehors, vous l'acclimatez gentiment, pour passer la belle saison, à l'hiver d'après, il n'y aura aucun souci au niveau du dégât. Sa morphologie de cette plante est adaptée à notre situation.
En même temps, Mylène, si vous plongez dans un lac gelé, vous vous en viendrez aussi. On enchaîne avec une nouvelle question. Nous avons encore des plantes de betteraves au jardin, mais les feuilles deviennent rouges. Est-ce normal ?
Oui, oui, la racine rouge est un légume qui, à l'automne, a ses feuilles vertes qui s'épuisent. Et puis, si on la laisse en pleine terre, dans le carreau, elle a tendance à redémarrer. Et le froid et le fait de redémarrer, ces nouvelles feuilles sont rouges. Si on avait 2-3 mois de doux, de chaud derrière, ces feuilles rouges qui apparaissent maintenant reviendraient vertes à l'évidence. C'est juste le fait que c'est des nouvelles feuilles et puis que cette plante, elle est un peu déstabilisée parce qu'elle a l'impression de devoir redémarrer en pousse alors qu'elle devrait être sur une période d'hibernation. Mais ça va se calmer, elle va se calmer dans la pousse parce que le froid est là et puis on pourra la consommer sans problème durant l'hiver en salade ou comme on la souhaite.
Nous avons planté il y a un an un petit pommier à côté de la place de Parc. Malheureusement, en reculant, nous avons percuté l'arbre. Le tronc est fissuré, mais pas complètement cassé. Que faire pour sauver l'arbre ? Je tiens à préciser que ce n'est pas moi qui conduisais la voiture qui a cassé cet arbre. Jean-Pierre, est-ce qu'on peut sauver un arbre qui a été percuté par une voiture ?
Oui, en tout cas pour le sauver, ce qu'il faut à l'évidence, c'est ne plus reculer dessus, parce que sinon, avec 2 ou 3 interventions de ce genre, je pense que ce sera plus difficile de sauvegarder le végétal.
Meilleur conseil de la saison.
Oui, mais si le tronc est fendu, c'est encore pas catastrophique. Il faudrait avoir une photo pour voir l'élément, mais si on le redresse avec un tuteur et puis on l'attache, c'est pas cette fente qui va faire que le végétal va périr. Il peut même se renforcer, il va cicatriser et puis se dynamiser par rapport à cette intervention. Par contre, effectivement, il faudrait limiter la casse avec la voiture.
Merci beaucoup Jean-Pierre, et on vous rappelle que ce n'est pas à cause des routes glissantes que ce pommier a reçu un petit coup de pare-choc. La suite des jardinières, c'est dans quelques instants. Dernière partie, profitez encore pour nous poser vos questions, c'est les dernières minutes pour le faire.
7h, 8h, les jardinières.
L'heure file et nous allons devoir bientôt nous séparer de notre jardinier. Ce matin, nous avons parlé d'élagage de grands végétaux, sujet que vous pourrez retrouver dans quelques minutes en podcast sur notre site. Mais avant de relâcher Jean-Pierre dans la nature, place à notre traditionnelle question de fin d'émission. Nous sommes début décembre. Jean-Pierre, que faire au potager ?
Eh ben, au potager aujourd'hui, moi je crois que j'y ferai pas grand chose. Je ferai plutôt un service machine, un service outillage, un contrôle de ce qui aura été encavé au niveau des légumes ou au niveau des fruits pour trier ceux qui sont déjà outre-mur pour qu'ils n'altèrent pas le reste de la récolte. Mais là, dans le potager aujourd'hui, je pense que c'est peut-être pas forcément la bonne solution. Vu les conditions météorologiques, mais on trouve hein, après dans les abords de ce potager, comme je vous dis, au chaud, au sec, dans le garage, tout ce qui est de service, trier les graines, refaire les stocks, évaluer ce qu'il faudra pour le printemps, je pense que c'est la meilleure des solutions pour aujourd'hui, avec un petit apéro à 11h30.
C'est noté.
Est-ce qu'il y a à l'intérieur quelque chose à surveiller? Parce que quand on voit les différences de température entre l'extérieur et l'intérieur, on sait que tout ce qu'on aime bien être confortable au chaud sur notre canapé ou à la maison. Est-ce qu'il y a une plante à surveiller un peu plus quand on fait augmenter un petit coup comme ça les radiateurs?
Pour les plantes d'intérieur, vous dites?
Oui.
Se garantir en tout cas qu'elles aient assez d'humidité, parce que souvent on les oublie un peu ces plantes, comme les oliviers et puis les palmiers qu'on met des fois dans les angles des façades et puis on se dit ben il est bien jusqu'au printemps. Eh bien non, il faut quand même de l'eau, parce que c'est souvent des endroits abrités, ombragés, mais abrités, et puis si on ne leur donne pas de l'eau au printemps, on se rend compte qu'on a beaucoup de dégâts bêtement suite au sec. Alors de l'arrosage, un peu de nettoyage de feuilles mortes, de structures sur le terreau, rajouter un peu de terreau, voilà les éléments qu'on peut réaliser sur ces plantes qui sont soit intérieures, soit extérieures, en pot, mais à l'abri de cette condition météorologique de ce jour.
Merci beaucoup Jean-Pierre, on rappelle que vous êtes paysagiste et fondateur de Ribaud Paysages à Queuves. On vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et on se dit à l'année prochaine pour de nouveaux conseils jardinage.
Mais très très volontiers, et puis bonne fête à tout le monde évidemment, bien sûr, merci à tous.
Merci Jean-Pierre. Les jardinières vous donnent rendez-vous samedi prochain dès 7h. Nous serons cette fois-ci en compagnie de Tom le jardinier. Il nous donnera tous les conseils pour décorer sa table de Noël avec des végétaux pour décorer, hein, pas pour les manger.
Non, mais ça se mange aussi, mais à Noël on mange tout.
Et puis les questions, vous pouvez les poser quand vous voulez, soit par SMS, soit via notre site. On vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. Bon week-end Raphaël.
Bon week-end Mylène. Et puis attention, hein, si à la personne qui vient d'essayer de nous joindre, il faut pas attendre 8h moins 4 pour nous appeler, il faut nous appeler beaucoup plus tôt, on est là depuis 7h, il faudra recommencer samedi prochain.
Et bon week-end, prenez soin de vous.
7h, 8h, les jardinières.